VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. La lutte contre le djihadisme dans le Sahel fait un front commun contre le terrorisme et l'extrémisme. Tel est le but de la rencontre du G5 Sahel qui se déroule à Bamako, au Mali. Une initiative du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD souhaite que des dispositifs communs soient mis en place pour gérer les zones frontalières. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La sécurité et la lutte antiterroriste sur les frontières sont les préoccupations des pays du Sahel. La plupart de ces pays font face à Acmi, Al-Mourabitoun et leurs alliés. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Sur la question de sécurité, pour nous permettre de mieux maîtriser ces flux frontaliers, il y a aussi la nécessité quand même de ne pas faire des frontières, des barrières. Il faut faire en sorte que les communautés frontalières puissent mutualiser.
Abdoulaye Marindjeng, directeur du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD.
L'investissement majeur, c'est dans le développement. Et ces zones, il faut le dire, ont été négligées. Les investissements n'ont pas beaucoup atteint ces zones. Et la gouvernance est un peu faible dans ces zones-là. Donc si on investit dans la cohésion sociale, dans la bonne gouvernance et dans le développement, on va éliminer un peu la propension à l'utilisation des jeunes dans ces mouvements terroristes.
Cette rencontre de 2 jours de Bamako doit faciliter la mise en place des dispositifs communs pour mieux gérer les zones frontières dans les pays du G5 Sahel. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Insécurité au Sahel toujours, le tourisme a beaucoup chuté dans la région depuis quelques années. Les touristes ont déserté des pays comme le Niger, considérés comme à risque. Et les professionnels du tourisme en souffrent, notamment les artisans, qu'a rencontré l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pino.
Les coups de marteau résonnent sur le fer encore chaud que bat le forgeron. Dans cet atelier, on fabrique des chaises, des tables ou encore des lits. Bienvenue au village artisanal Wadata de Niamey, qui regroupe une centaine de professionnels. Ici, on trouve de tout, des chaussures, des tissages et de la bijouterie. Aboubakar Jibo est originaire de Tawa. Il nous explique les 21 croix Touareg qui existent au Niger.
Croix d'Agaraz, croix de Tawa, Ingal, Ndabangarad, Chimiya, Parchakaya, Abalak, Bilima, tous les gens de Touareg. Les croix, on fait ça en argent, on fait ça en nickel, on fait ça en bronze, on fait ça même comme un cuivre.
Les artisans se sont regroupés en coopérative pour mieux décrocher les financements des partenaires internationaux au développement. Dans les ateliers, des adolescentes et quelques garçons font de la couture dans le cadre de la formation dispensée au village. Mahaman Sani Sidji est le secrétaire comptable de la coopérative du village artisanal.
Ici, c'est un atelier de formation en couture. Donc, on amène des jeunes filles et garçons qui ont été renvoyés de l'école ou bien qui n'ont même pas été à l'école. Donc, on les amène ici en formation. Donc, on les apprend la couture.
Aucun touriste à l'horizon lorsque VOA Afrique a visité le village artisanal. Les temps sont durs depuis 5 ans au Niger. Le tourisme est en chute libre, comme le reconnaît Moussa Ibrahim, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger.
C'est vrai, si on regarde les chiffres d'affaires, ils ont baissé. Pour dire que l'artisanat nigérien se porte bien, là, je vous aurais menti. On a beaucoup de problèmes par rapport à l'écoulement de nos produits artisanaux. 45% de baisse des chiffres d'affaires depuis 2010. Maintenant, pour pouvoir vendre nos produits, il faut aller à des foires d'exposition à l'étranger. Et ça, ça coûte cher.
Pour Ali, le maroquinier, le contexte électoral et l'incertitude ne favorisent pas non plus la reprise des activités.
Bon, pour l'instant, vraiment, ça tourne un peu au ralenti, compte tenu de la situation du pays, comme nous sommes dans une période électorale. Donc, il y a moins de clients, mais on espère vraiment, après tous ces caricats, après, il y aura du monde qui va venir s'intéresser à ce que nous faisons.
Les artisans du Niger espèrent surtout que les pays occidentaux, notamment la France, arrêteront de placer Niamey ou Agadez sur la liste des destinations à risque pour les enlèvements par les groupes terroristes. Nicolas Pino, Niamey, VOA Afrique.
Niger toujours, l'opposant à Mahamadou écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic de bébés, va finalement participer au second tour de l'élection présidentielle du 20 mars au Niger face au président sortant Mahamadou Issoufou. A noter que M. Amadou, qui est détenu depuis 4 mois, a été évacué aujourd'hui à l'hôpital. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'opposition. Amadou souffrait des yeux et a été transporté ce matin à l'hôpital de Niamey pour des soins, a précisé Ousseini Salatou, le porte-parole de la coalition pour l'alternance COPA 2016, qui soutient la candidature de M. Amadou.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Soudan du Sud, dans un nouveau rapport dénonçant notamment les exactions commises par le gouvernement sud-soudanais, l'ONU tire la sonnette d'alarme et fait état de viols, exécutions et destructions systématiques. La situation des droits de l'homme dans le pays est parmi les plus horribles dans le monde, dit le rapport. Des détails avec Saloua Jafari.
Depuis la petite ville de Bantu au Sud-Soudan, le coordinateur des droits de l'homme de l'ONU, David Marshall, en dit plus.
Les principales conclusions sont que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ont continué en 2015. Ils ont principalement été perpétrés par le gouvernement. Nous avons également constaté des violations par l'opposition. Ces violations identifiées en 2013, 2014 et 2015 sont similaires aux massacres des civils, des déplacements, des pillages, des enlèvements, des viols. En somme, ils terrorisent la population civile.
Pour l'ONU, l'État porte la plus grande responsabilité des violences pour l'année 2015, étant donné l'affaiblissement des forces d'opposition. Le rapport parle d'une politique de la terre brûlée menée par le gouvernement et assure que selon des sources crédibles, des groupes alliés au gouvernement sont autorisés à violer les femmes en guise de salaire. Le Soudan du Sud, indépendant du Soudan depuis juillet 2011, après des décennies de conflits avec Khartoum, a sombré dans la guerre civile en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président de fomenter un coup d'État. Plus de 2 millions de personnes ont été chassées de chez elles et des dizaines de milliers tuées par la guerre et les atrocités dont les deux camps se sont rendus coupables.
Au Burundi, départ en trombe des travaux de la commission Vérité et Réconciliation. Cette commission s'est déjà entretenue avec les étudiants des universités publiques et privées de Bujumbura et de Ngozi. Mais pour l'opposition burundaise, la dite commission est tout sauf indépendante. Au micro de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, on écoute Charles Nditije, le président du parti de l'indépendance UPRONA, formation politique non reconnue par les autorités burundaises.
Pour nous, c'est un événement dans un pays meurtri par des crises à connotation génocidaire. Il y a un pilier extrêmement important, c'est celui de la justice. Cette loi a complètement occulté la dimension judiciaire. Il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix sociale si cette dimension justice n'est pas présente dans ce mécanisme. C'est plutôt pour nous un moyen d'occulter la vérité parce que les gens ne diront pas la vérité, dès lors qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la justice de réparation par rapport au forfait au Burundi, des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont inamnistiables et imprescriptibles.
Charles Nditije, président du parti de l'indépendance UPRONA, formation politique non reconnue par les autorités burundaises. Et puis au Congo, Brazzaville, 5 candidats de l'opposition, Pascal Tsatsi, Mabiala, André Okombi, Salissa, Guy Brice Parfait, Kolela, Claudine Mounari et Jean-Marie Michel Mokoko ont créé leur propre commission électorale dénommée Commission technique des élections, CTE. Objectif, assurer que le dépouillement des voix aux prochaines présidentielles au Congo-Brazzaville soit juste et équitable. Et puis en Angola aussi, le président José Eduardo Santos a annoncé aujourd'hui son intention de quitter la politique en 2018. Une promesse faite devant le comité central de son parti, le MPL, le Mouvement Populaire pour la Libération d'Angola. Le mandat du président Dos Santos expire l'année prochaine et il n'a pas dit pourquoi il resterait au pouvoir une année de plus. Réaction d'une spécialiste de l'Angola, Paula Rock, qui enseigne à l'université d'Oxford en Angleterre. Quand il dit qu'il va partir en 2018, il veut dire qu'il va se représenter en 2017 et ensuite décider si le pays est assez stable pour quitter le pouvoir, a souligné Madame Rock. Et pour terminer, présidentielle de novembre aux États-Unis, côté républicain, le milliardaire Donald Trump a obtenu aujourd'hui un deuxième ralliement de poids dans la course à la présidence. Le docteur Ben Carson, ex-candidat aux primaires et seul noir à briguer la magistrature suprême, a confirmé son soutien à Donald Trump lors d'une conférence de presse à Palm Beach, en Floride. Le neurochirurgien a déclaré qu'il y a deux Donald Trump, le candidat très batailleur sur la scène politique, et puis une seconde personne très cérébrale avec qui il a de nombreux points en commun en politique. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.